CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Bonjour, bonjour à tous, c'est Joanne pour le mag de CFM Kailus, et on va apprendre des choses en plus. Aujourd'hui, nous allons passer ce mag de CFM Kailus avec José González, le président de l'association Mémoire de l'Espagne républicaine 82, qui est aussi membre du CIMER, le centre d'interprétation et d'investigation de la mémoire de l'Espagne républicaine, dont le siège est maintenant à la gare de Borodón. Et justement, nous allons parler du rassemblement devant cette gare, samedi 8 mars à 9h30. Et tous ceux qui y participeront feront les 6 km 500 sur les pas des soldats de l'armée républicaine qui ont été prisonniers dans le camp de concentration de Sepphon et qui sont arrivés au mois de mars 1939. Un morceau d'histoire. Et évidemment, comme cette 8e marche mémorielle de Borodón a lieu un 8 mars, nous allons certainement parler de l'égalité homme-femme et en particulier de l'investissement des femmes dans le combat pour la République espagnole, surtout aujourd'hui où un certain nombre, de droits acquis pourraient être remis en cause par les gouvernants espagnols. Mais bon, avant de recevoir José González, nous allons passer par la boîte à musique.
Le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler du samedi 8 mars 2014. À partir de 9h30, la 8e marche mémorielle part de la gare de Borodón pour arriver au camp de Judas et de Fons, c'est-à-dire le parcours qu'avaient réalisé les premiers réfugiés républicains espagnols en mars 1939, à la fin de la guerre d'Espagne. On est obligé, José González, de redire les choses comme si on n'en avait jamais entendu parler, parce que à chaque instant, sur cette radio, il y a des gens qui écoutent et qui n'avaient jamais entendu parler. Quoi ? Vous avez dit camp de concentration à cette fond, déjà ? Concentration, c'est très exagéré. Non, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Hein, on avait inventé le moyen de regrouper les gens et on les concentrait pour pouvoir les trier après. C'est ça qui se passait sous la France, rappelons-le, du gouvernement de Front Populaire, même si c'était que trois ans plus tôt, c'était la mémoire. Bon, la mémoire, vous continuez à la maintenir avec le CIMER, le Centre d'interprétation et d'investigation de la mémoire de l'Espagne républicaine, justement à cette gare de Borodon, qui a pris de l'importance parce qu'il fallait pas. Il fallait pas débarquer à Caussade. Ils l'ont fait la première fois et ça s'est vu qu'il y avait une solidarité avec ceux qui étaient des va-nu-pieds, comme nous le disait la presse héroïque de droite de l'époque. José González, bonjour. Vous serez en forme pour cette marche samedi ?
Oui, oui, je pense. Et puis je pense qu'on va bénéficier d'une météo très favorable, hein, par ce que j'entends. Voilà, les perspectives, la perspective est bonne.
Alors c'est le 8 mars, en même temps.
Oui.
Obligé.
Évidemment.
Et en même temps, ravi de pouvoir rappeler que les femmes n'ont pas été pour rien dans le combat antifasciste de cette guerre entre 36 et 39.
Absolument. C'était une époque où le rôle de la femme, même s'il était minimisé, et que la femme restait à la maison, hein, c'était. Mais la République espagnole et sa constitution de 1931, hein, promulguée le 9 décembre, a été quelque chose d'abord de très important pour le pays, de très important pour les femmes, puisqu'elles y ont gagné à la fois le droit au divorce, qu'elles ont échappé à la mainmise de l'Église sur tout ce qui était la vie quotidienne et la vie des gens, qu'elles ont eu ce droit de vote, le droit au divorce, enfin plein d'éléments comme ça, extrêmement modernes pour l'époque.
Oui, rappelons qu'en France, c'est en 1945 que les femmes ont le droit de vote.
Bien plus tard. Non, cette constitution du Front Populaire, elle est
de la République
espagnole en 1931, le Front Populaire viendra plus tard, elle est très très en avance pour son époque, et je dois dire qu'aujourd'hui encore, elle a des éléments qui seraient tout à fait d'actualité, c'est sûr.
Bon. On a des femmes qui ont marqué ce moment de l'histoire, comme Federica Montseny ou comme Dolores Ibarruri, la passionnaria. Dans l'imagerie française, en tout cas, qu'on nous apprend à l'école, voilà, ce sont des femmes un peu comme Louise Michel, quoi, exceptionnelles.
Absolument. Il y en a plein d'autres. Hein. La première femme ministre, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis la place de cette passionnaria qui est devenue une dirigeante et une militante extraordinaire avec des discours très enflammés. Oui, les femmes ont pris beaucoup d'importance. Alors, le féminisme, il est dans toute l'Europe à cette période. Hein. On se rappelle des suffragettes en Angleterre. Mais en Espagne, par exemple, il y a eu en 1901 un curieux mariage où deux femmes se sont mariées, l'une déguisée en homme, ce qui a fait scandale, puisque ça, évidemment, l'Église les a mariées, ça a fait un scandale dès 1901. Et il y a eu dans l'Espagne un mouvement comme ça féministe qui est venu accompagner tout ce mouvement européen de libération, mais qui effectivement n'a vu le jour qu'au moment de cette République. Et qui a d'ailleurs, par la suite, au moment de Franco, complètement inverser les choses. La femme a été ramenée au foyer et avec... On va avoir une exposition pour la marche. On aura une exposition à la gare de ce que ça a été, ce retour en arrière du franquisme qui a édité une sorte de... Les 11 commandements de la bonne épouse qui devait arrêter toute activité un quart d'heure avant que son mari rentre pour se faire belle. Surtout ne pas lui poser de questions parce que c'est tellement plus important ce qu'il dit lui que les petits soucis qu'elle peut avoir. Enfin, des choses incroyables qui ont été édités dans une brochure sous le franquisme par la section féminine de la JONS, l'organisation falangiste. Et on a vu le sort des femmes complètement retourné au domicile, à la maternité, enfin des choses extraordinaires, incroyables pour cette époque. Et pourtant, aujourd'hui, on voit dans l'Espagne actuelle une forme de régression comme ça, où les droits acquis de ces femmes sont mis en cause.
Dans l'Espagne, au niveau du gouvernement.
Oui, au niveau du gouvernement. Hein,
parce que dans l'Espagne, plutôt dans les rues, on voit des protestations quand même.
Évidemment, évidemment. Oui, oui, dans l'Espagne, dans le gouvernement d'aujourd'hui, qui fait une marche arrière extraordinaire. Alors évidemment, l'Europe qui se construit normalement, qui devrait être une Europe de progrès, on se retrouve aujourd'hui avec des pays comme l'Espagne, l'Irlande ou la Pologne, qui remettent en cause ces droits des femmes, et ça c'est absolument... inacceptable.
Et ça, c'est une espèce de retour de manivelle de la religion, quand même, parce que ça soit l'Irlande, la Pologne ou l'Espagne, il y a une espèce de courant de pensée qui est là, qui veut revenir au Moyen-Âge régulièrement.
Mais moi, je pense que les religions se sont toutes construites sur l'oppression des femmes. Enfin, pour que je me tourne un peu vers les unes et les autres, la femme est au centre de cette oppression et de ce souci constant de ce machisme de mettre en place des structures théoriques, idéologiques qui contraignent la femme à rester soumise à la volonté de l'homme.
Alors José González, cette 8e marche mémorielle à Borodon, samedi 8 mars, à cette dimension, puisque c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et donc en l'occurrence un souvenir, d'où ça vient, hein, parce que ça doit être en 1977 que ça a été admis comme journée internationale, ça remonte loin effectivement des suffragettes, ouais. des mouvements pour l'émancipation. Tout bonnement. Mais rappelons quand même à notre jeune public ce qu'est la gare Borodon, ce qu'est le camp de Judas Hetfront, et pourquoi vous allez crapahuter un samedi matin de mars.
Oui, oui. Alors déjà, par rapport à l'expression employée tout à l'heure de tri des populations, quand ces exilés arrivent à la frontière, ils y arrivent fin janvier, début février, et en février, il va y avoir un événement très important qui est la reconnaissance par la Troisième République du gouvernement de Franco. L'Espagne est encore en guerre, Franco est à Burgos, et la Troisième République va reconnaître ce gouvernement et va donner à partir de là un tas de gages à Franco et contre les républicains. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois des accords économiques, les accords Bérard-Jordana, qui vont faire que la France va rendre toutes les richesses, tout ce que ces républicains vont amener et ont déjà mis à l'abri en France, entre autres l'or de la couronne, qui n'est pas en Russie, mais qui est à Mont-de-Marsan, vont les rendre à Franco. Et puis, ils vont rendre les armes, les tanks, tout ce qu'ils amènent, hein, qui traverse la frontière, ils vont le rendre à Franco. Et puis, il va y avoir une attitude qui consistera... Et c'est pour ça que, si on n'explique pas ça, ça devient incompréhensible. Quand cette foule arrive à la frontière, d'abord, il y a une armée qui arrive, et pas en débandade, hein, l'armée arrive en formation, hein, au pas, en rang.
Quand elle est en débandade, c'est parce qu'elle est bombardée. Voilà, donc, on se planque dans les fossés, si
on
peut.
Au milieu des civils. Oui. Et ils vont séparer ces populations. Ils vont mettre d'un côté les femmes, les enfants, les blessés, les vieillards. C'est pour ça que ce premier train arrive à Costa le 29 janvier, où il y a cette population-là. Enfants, vieillards, blessés, soldats blessés. Les autres, les hommes en âge de combattre, vont être mis de côté. Et c'est eux qu'on va enfermer dans ces camps de concentration, puisque le ministre Sarraut, qui les invente, qui les met en place, les appelle comme ça, camps de concentration, pour que ces gens ne puissent plus aller se battre. C'est déjà arrivé, le deuxième exil qui a lieu, puisqu'en en octobre, il y a eu l'invasion du Pays Basque par les Italiens, et qu'il y a une première arrivée de soldats en France qui ont fait le tour, sont rentrés dans le côté atlantique et sont revenus à Barcelone et continuent à se battre. Le terme retirada est un terme militaire qui consiste à ça, c'est-à-dire à refluer pour aller se battre ailleurs. Et ils ont empêché ces hommes de repartir. Ils les ont enfermés dans des camps, et on voit que dans tous ces camps de la côte, c'est surtout des populations d'hommes en âge d'aller se battre.
Alors quand on dit, il faut se rappeler quand même que ces camps, on dit des camps, au départ c'est du sable et des barbelés.
Absolument, oui, ce sont des parcs, hein, ils peuvent partir à la nage s'ils veulent, hein. Mais ils sont derrière des barbelés et puis avec surveillés par des Sénégalais, des tireurs sénégalais, qui sont dans une attitude agressive. L'armée, ça s'appelle sabre au clair, Un soldat peut avoir le sabre dans son fourreau ou le sabre au clair. Et sabre au clair, c'est une attitude qui consiste à tuer si besoin. Et donc nous sommes dans cette situation où ces gens qui n'ont rien fait, qui ne sont pas des miliciens, comme malheureusement on le dit trop souvent, les milices sont finies fin 37, donc c'est vraiment une armée républicaine d'un pays légal qui arrive et qu'on va enfermer, emprisonner dans ces camps.
Et donc avec quand même comme cadre, en France, une France coupée en deux, puisqu'il y a toute une presse qui les qualifie de rouges, absolument, avec toute l'imagerie du couteau entre les dents, qui vont manger les petits-enfants et tout ça. Hein.
Et puis l'Afrique commence aux Pyrénées, enfin voilà, tout ce qui est ce qu'il y a de péjoratif dans cette xénophobie qui bat son plein à ce moment-là. Et donc on va empêcher ces gens d'aller se battre et de pouvoir continuer à défendre leur République. Et ça, c'est un des éléments qui accompagne les accords Bérard-Jordana de cette Troisième République qui, malheureusement, va, le 27 février, reconnaître Franco, ce qui va provoquer la démission du président Lasagna, qui est déjà en France.
Qui est à Montauban. Il arrive à Montauban après. Oui.
Voilà, il arrive à Montauban après. Il passe la frontière, il s'en va à Coulonges, près de la frontière suisse. De là, il va partir au Pilat. Puis, au moment où les Allemands arrivent, il va être obligé de. Enfin, la France est coupée en deux, et le Pilat se trouve dans cette zone occupée. Et là, il va venir sur Montauban pour y mourir dans la nuit du 3 au 4 novembre 1940.
Bon, Manuel Lasagna, qui, outre être le dernier président de la République espagnole, était un grand intellectuel.
Absolument, francophile, qui, à un moment de grande guerre 14-18, voulait que l'Espagne entre en conflit. Enfin, voilà, à son époque, il a beaucoup travaillé pour ça et il n'a pas obtenu. L'Espagne est restée neutre.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30.
Toujours en compagnie de José González pour l'association Mémoire de l'Espagne républicaine, pour cette 8e marche mémorielle de Borodon, où le rassemblement est devant la gare à 9h30, pour aller ensuite ce qui reste au mémorial du camp de Jude à Sept-Fonds. Alors, camp de Jude.
Voilà, alors cette gare, donc, c'est un peu le hasard de l'histoire, hein, quand ces gens arrivent transportés, soit directement, comme le premier convoi qui est arrivé de Cerbère le 29 janvier, une stèle a été mise, il y a une quinzaine de jours, devant la gare de Caussade. La rue qui passe devant la gare s'appelle dorénavant rue des Républicains Espagnols. Et donc, ils sont arrivés ensuite des convois nombreux, et puis dans la semaine du 5, donc ces premiers convois arrivant à Caussade ont créé des troubles dans la population, bien évidemment. Dont les convois suivants sont arrivés à la gare de Borodon,
en rase campagne,
évidemment, pour cacher à la population cette infamie qu'on était en train de faire. Et dans la semaine du 5 au 12 mars, il va y en arriver comme ça 16 000. C'est le chiffre qui circule, 16 000. C'est le chiffre vérifiable, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui le nombre de convois qu'il y a eu, un matin, le soir, parfois la nuit, et il y en a eu comme ça sur cette semaine du 5 au 12, 16 000 Espagnols sont arrivés.
Citons ici l'excellent ouvrage de Colette Berthès, L'exil et les barbelés, qui a fait un travail de compilation et de documentation intéressant. D'ailleurs, elle explique que les autorités françaises avaient commandé à des entreprises de fabriquer les baraquements, et que bon, elles y allaient à leur train, et, si on peut dire, et que quand les réfugiés sont venus, on leur a filé les outils pour qu'ils le fassent eux-mêmes.
Parce que c'était pas... Quand ils sont arrivés le 5 mars, le terrain n'était pas du tout praticable pour héberger du monde. D'ailleurs, ils ne sont pas arrivés directement au camp de Jude, ils sont arrivés sur la petite colline qui domine ce terrain, qui s'appelle la Lande, autour de l'église de la Lande, dans des conditions de froid et de lamentables, de cet terrible hiver 39. Ils ont d'ailleurs vidé les caveaux du cimetière pour se mettre à l'abri. Enfin, on a comme ça des détails effrayants de ce qui a pu se passer à ce moment-là. Et donc, ils sont arrivés 16 000 dans cette semaine. Nous avons, un peu par les hasards des choses, réussi à acquérir cette gare avec une souscription internationale et marqué cette mémoire en faisant tous les ans, et vous pouvez noter sur vos agendas jusqu'en 3000, si vous voulez, tous les ans, dans la semaine du 5 au 12, nous faisons cette marche. Alors, quand c'est le samedi 5 et samedi 12, ce qui arrive, puisque c'est une semaine entière, c'est toujours le deuxième, donc le samedi, le 12, quand ça tombe comme ça. Donc, tous les ans, le samedi, a lieu cette marche mémorielle. Nous avons commencé déjà, c'est la 8e, comme vous l'avez signalé. Nous étions, je crois, 13. Ce chiffre a dû nous porter bonheur pour ceux qui sont... qui croient ce genre de choses. Et donc, l'an dernier, nous étions plus de 100, et je pense que cette année encore, nous allons être fort nombreux, parce que nous avons également couplé le lendemain, il y aura la réunion de ce CIMER, dans ce Centre d'interprétation de la mémoire. Nous n'avons pas acquis cette gare pour nous, enfin, je veux dire, pour l'association MER 82, qui n'y a pas son siège. Nous l'avons mise à disposition de la mémoire espagnole, et constitué dans cette gare un centre d'interprétation qui est aujourd'hui intégré par 43 associations. Une vingtaine en France, une vingtaine en Espagne, une au Maroc, une en Belgique. Et c'est un mouvement qui est en train de s'amplifier puisque d'autres tapent à la porte. En tout cas, sont intéressés pour faire partie de ce projet qui va continuer à étudier, à recevoir des documents, à recevoir des témoignages, à faire des expositions, à faire valoir et faire connaître cette mémoire dans des termes qui nous semblent justes. Je veux dire par là que... D'aucuns parlent de camp d'internement, ce qui est une absurdité. Le terme juste, le terme vrai, le terme historique qu'on retrouve dans toutes les archives et dont tout le monde a fait état, c'est les camps de concentration. Alors évidemment qu'ils n'ont pas la connotation, et on ne parle pas là des camps d'extermination, quoi qu'il y ait eu beaucoup, beaucoup de morts. Le seul chiffre de morts qu'on a, c'est un chiffre militaire, et il n'est pas banal, puisqu'on parle de 15 000 morts dans ces camps. Et quand on voit le cimetière de cette fond, l'âge de ces gens, ce n'est pas des âges pour mourir, c'est 19, 20, 25, 23, le plus âgé 52, mais tous les autres sont des gens qui sont dans la trentaine et même moins. Donc c'est des gens qui sont morts vraiment des conditions de vie qu'on leur a faites, et non pas de blessures ou autres. Ils sont morts de pneumonie, ils sont morts de maladies liées...
De dysenterie aussi.
De dysenterie, voilà, ouais. Il y a une épidémie au camp, voilà. Donc c'est très important. Et nous avons tenu évidemment à ce que cette mémoire soit connue, ravivée, non pas de, alors pas de pleurnicherie, parce que ces gens étaient des gens debout. Dans les images, on voit, dès qu'un photographe se pointe son appareil sur eux, il lève toujours un poing combatif. Et donc, c'est pas du misérabilisme, c'est pas ces pauvres... Non, jamais ils n'ont avancé la tête baissée sous les coups. Ils ont toujours été très, très droits et très rebelles. Et puis, c'était des gens très politisés, avec des idées extrêmement... moderne et à transmettre, quoi, la liberté, la solidarité, l'égalité, voilà, des choses que, dont je suis fier, parce que mon père est passé par là, est passé par ce camp de cette fond, est passé par cette gare, et beaucoup de gens de notre association sont dans ce cas. Nous avons aujourd'hui une association dont on peut être fier aussi, hein, puisqu'on a près de 144 adhérents pour l'année 2013, et que le courant d'adhésion, que nous ne forçons pas, hein, on ne fait pas de campagne de prosélytisme particulier, est toujours là et très important. Et la participation financière de ces gens, non seulement par des cotisations, mais par des dons, fait qu'aujourd'hui nous pouvons rembourser l'emprunt qui nous a été nécessaire pour cette gare de manière enfin, tranquillement du point de vue des finances.
Alors ça se passe samedi 8 mars à 10h, le départ de la gare de Borodon pour rejoindre le camp de Jude à Sept-Fond. Il y a des véhicules d'accompagnement sans problème pour ceux qui voudraient absolument venir mais dont l'état de santé, le médecin dit pas trop bon. Voilà. On revient à la gare en covoiturage et là, pique-nique, sortie du panier, donc il faut amener son manger. Puis un débat d'actualité justement sur cette journée du 8 mars.
Oui. Oui, oui. On a prévu de parler de cette période, hein, de ces femmes. Alors la participation des femmes, évidemment, pendant la République et toutes leur implication politique dans cette bataille pour la République. L'implication des femmes dans la guerre, elle a été très importante, puisque, comme partout, d'ailleurs, c'est pas seulement en France, en Espagne, mais quand les hommes sont au front, ben les femmes, il faut qu'elles retroussent les manches, et c'est elles qui font tourner les usines, très souvent. Donc une implication très forte. Sur le front, parce que beaucoup, habillés en hommes, se sont intégrés dans les combats, et de temps en temps, dans cette armée, eh bien, on a trouvé, quand ils sont arrivés en France, des femmes dans les camps, mais c'était des femmes qui étaient déguisées en hommes, enfin, qui voulaient rester à la fois avec leurs compagnons et avec leurs compagnons d'armes. Et puis, en France, dans la résistance, parce que très tôt, ces Espagnols qui savaient pourquoi ils se battaient, et en ce sens, nous tenons à préciser que guerre civile, point du tout. C'était une guerre contre les armées qui envahissaient un territoire, les armées allemandes, italiennes, portugaises et marocaines. Le peuple espagnol ne s'est jamais soulevé contre sa république. Ça, c'est une fausse idée que nous tenons à combattre. Donc, en France, ces gens ont de suite pris part à la résistance parce qu'il savait qu'il se battait contre le fascisme et pas contre je ne sais quelle joue et flèche symbole du franquisme espagnol. Il se battait contre le fascisme, contre la croix gammée, contre ce fascisme international. Et les femmes y ont pris une place très importante en étant très souvent des gens qui passaient des messages, qui étaient des liens entre les résistants et entre les réseaux. Et elles avaient des activités souvent dangereuses qu'elles ont aussi payées chèrement. Donc c'est très important de mettre en valeur toute cette saga féminine liée à cette période.
José González, je vous remercie. On se retrouve samedi 8 mars à 10h à la gare de Bourdon.
Merci à vous.
Le mag du quartier Rouergue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même punition. Ciao, ciao. Passez une bonne après-midi à l'écoute des programmes de CFM.